Imaginez, nous sommes à l'été 2016, les Jeux Olympiques, finale du sprint du 100 mètres, Jamaïcain Usain Bolt dans les starting blocks, tout le monde, 50 000 spectateurs, les yeux braqués sur lui. C'est le départ, les coureurs partent en flèche, Usain Bolt a déjà un mètre d'avance sur ses concurrents, et puis... Quand il a fini la première partie de sa course, vous savez, les sprinteurs ne sont pas tout à fait relevés au départ. Et quand il se relève, il aperçoit sur le côté quelques stands qui vendent des boissons énergisantes, des chaussures spéciales, des fortifiants musculaires, tout ce qu'on pourrait prendre pour s'assurer la victoire. Et il sort de la piste et il va sur ces stands pour faire quelques achats, en se disant « de toute façon, je suis en avance ». Et puis, évidemment, lorsqu'il revient dans la course est terminée, et il est disqualifié. Histoire invraisemblable, n'est-ce pas, à la limite du ridicule. Mais, pourtant, cette histoire, que j'espère fictive pour Usain Bolt aux prochains Jeux Olympiques, illustre la situation spirituelle des chrétiens auxquels Paul écrit dans sa lettre aux Galates. Il parle de la vie chrétienne, de la foi, comme d'une épreuve sportive, une course. Alors, dans l'écriture, c'est plutôt la course de fond qui est souvent prise comme image de la foi plutôt que le sprint. Mais nous allons reprendre ce matin le texte là où nous en étions arrêtés lors de la dernière prédication sur cette épître aux Galates, dans Galates chapitre 5. Je vous invite à trouver ce texte dans votre Bible, ou à écouter simplement la lecture qui va être faite. Nous avions étudié ensemble les 6 premiers versets du chapitre 5, la fois dernière, où l'apôtre Paul montrait le contraste entre les vrais croyants et les faux croyants. Les faux croyants, pour Paul, c'est ceux qui veulent ajouter la circoncision à leur foi en Jésus-Christ pour mériter la faveur de Dieu. Et nous avons vu déjà depuis quelques mois que cette circoncision, c'est pas seulement un acte religieux, c'est pas seulement un acte chirurgical, c'est aussi et peut-être d'abord le symbole du désir humain de plaire à Dieu en se justifiant devant lui par notre propre obéissance. Et à l'opposé, Paul parle des vrais croyants qui, eux, se contentent du seul Jésus-Christ et de la seule foi en lui pour être sauvés. C'est-à-dire de ceux qui ont compris que l'Évangile, et Simon le rappelait tout à l'heure, est une pure grâce de Dieu. Un cadeau qu'on ne peut pas mériter, mais que l'on reçoit de Dieu. Et nous avions parlé la dernière fois de ce verset clé de toute la lettre de Paul aux Galates, chapitre 5, verset 1. « C'est pour la liberté que le Christ nous a libérés. Tenez donc ferme et ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. » Et donc après avoir comparé, on pourrait dire, la vraie et la fausse religion, Paul va passer maintenant à une comparaison entre qu'est-ce que c'est le vrai enseignement et le faux enseignement. Et je reprends la lecture, donc Galates chapitre 5, à partir du verset 7, et nous lirons quelques versets jusqu'au verset 12. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté en vous empêchant d'obéir à la vérité? Cette persuasion-là ne vient pas de celui qui vous a appelé. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Moi, j'ai confiance en vous dans le Seigneur. Je sais que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en subira le châtiment. Quant à moi, mes frères, si je proclamais encore la circoncision, pourquoi serais-je encore persécuté? La cause de chute, la croix, serait donc réduite à rien? Qu'ils aillent donc jusqu'à se mutiler, ce qui sème le trouble parmi vous. Je vous propose de réfléchir à ce texte en trois temps. Premier temps, prendre part à la course. Deuxième temps, rester dans la course. Troisième temps, finir la course. Prendre part à la course, rester dans la course, finir la course. Paul dit, vous couriez bien, vous couriez si bien. La foi chrétienne, comme une course, comme une épreuve sportive. Paul utilise plusieurs fois cette image comme une métaphore de la foi ou de la vie chrétienne. Par exemple, dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 9, verset 24, il dit « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Courez de manière à le remporter. » Image de la course. Philippiens, chapitre 3, versets 13 et 14, Paul dit « Une seule chose compte pour moi. Oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obéir et obtenir le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Je cours vers le but, en ligne droite. Et déjà, dans notre lettre aux Galates, au chapitre 2, et au début du chapitre 2, Paul dit, on peut tourner quelques pages en arrière, il parle un petit peu de son parcours personnel, il dit, 14 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem avec Barnabas, et j'ai aussi pris Tite avec moi. Je suis monté par suite d'une révélation, je leur ai exposé l'évangile que je proclame parmi les non-juifs, je l'ai exposé en privé aux gens les plus considérés, de peur de courir ou d'avoir couru en vain. Encore cette image de la course. Ces textes nous montrent que courir, dans la pensée de l'apôtre Paul, c'est vivre l'épreuve, sportive parfois, du service chrétien. Le service que Dieu nous confie, la foi que Dieu nous donne. Courir, c'est mettre au travail notre foi en Jésus-Christ. En effet, courir, et Paul dit même courir bien, vous couriez si bien, ce n'est pas seulement croire des choses sur Jésus, croire en Jésus, comme s'il suffisait de dire « je crois en Jésus pour être juste devant Dieu ». Courir, ce n'est pas seulement faire preuve de droiture morale, comme s'il fallait bien se comporter pour être juste devant Dieu. Et nous pourrions peut-être regarder autour de nous, dans notre famille, parmi nos amis ou nos collègues de travail. Il y a parfois, souvent peut-être, des gens plus droits moralement que nous. Et pourtant, cela ne suffit pas à être juste devant Dieu. Prendre part à la course, courir, c'est obéir à la vérité. Obéir à la vérité. C'est comprendre et reconnaître la vérité. Quelle vérité ? C'est que nous n'avons rien à faire valoir devant Dieu pour mériter sa faveur. C'est comprendre que sa colère contre nos péchés nous condamne et que pour que nous échappions à une mort certaine, Dieu a envoyé son Fils prendre la condamnation à notre place, à la croix, il y a 2000 ans. Prendre part à la course, c'est voir la médaille qui nous attend à l'arrivée et que Dieu nous promet, non à cause de notre propre obéissance, qui est imparfaite, mais à cause de l'obéissance parfaite de Jésus. Prendre part à la course, c'est encore vivre une vie qui a un nouveau but, un nouveau sens, libérée du devoir de nous justifier devant Dieu. Quelqu'un l'a fait pour nous, et nous le recevons par la foi, et par la foi seulement. Cela ne peut pas s'acheter. Nous ne pouvons rien trouver dans la course, en dehors de la course, pour améliorer nos performances et mériter la médaille, comme je le disais un peu en introduction avec l'image des Jeux Olympiques. En résumé, courir ou prendre part à la course, c'est conformer notre comportement à notre foi. Vous voyez, ça marche ensemble. Il n'y a pas ce que nous disons et croyons le dimanche entre 10h30 et midi, et ce que nous faisons le reste de la semaine au travail, à la maison, etc. Dans la vie chrétienne, la vraie vie chrétienne, les deux sont liés, nos paroles et nos actes. La vraie foi se traduit par des pensées, des paroles, des actes qui se rapprochent de plus en plus du modèle de Jésus-Christ. Voilà donc le premier appel dans ce texte, prendre part à la course. Paul nous dit aussi que prendre le départ, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut rester en course. Vous couriez si bien, dit-il aux Galates, qui vous a détourné de l'obéissance à la vérité ? Verset 7. Les Galates avaient bien commencé la course de la vie chrétienne, de la foi chrétienne. Ils croyaient que Christ et lui seul les avaient libérés de leur désir de mériter la grâce de Dieu. Mais certaines personnes avaient jeté des obstacles sur la piste de course pour les faire chuter. Et dans notre texte, Paul entre maintenant davantage dans les détails de ces obstacles. Ce sont de faux enseignements apportés par de faux enseignants. Des gens qui se disent croyants, mais qui ne le sont pas. Comment discerner la vérité et l'erreur? Paul nous donne ici trois clés. Je développerai essentiellement les deux premières. Il nous dit quelle est la source de ce faux enseignement et quelles sont les conséquences de ce faux enseignement. Et troisième temps, je dirai quelques mots sur le but, l'objectif de ce faux enseignement. Donc, pour rester dans la course, Paul nous met en garde contre de faux enseignements. Quelle est leur source? Quelle est leur origine? C'est ce que Paul nous dit au verset 8. Cette persuasion-là ne vient pas de celui qui vous a appelé. Vous couriez si bien, qui vous a arrêté en vous empêchant d'obéir à la vérité? Cette persuasion-là ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Ici, Paul revient à la base, au fondement de la foi des Galates. Et aussi au fondement de la foi de tout chrétien aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a au fondement de notre foi? Il y a un appel, le coup de feu du départ. Ça, c'est Dieu qui le donne. Cet appel ne vient pas de nous, mais de Dieu. Nous cherchions peut-être quelque chose, ou nous sommes en recherche de quelque chose, que nous appelons Dieu ou d'une spiritualité. Mais la différence essentielle entre celui qui chemine vraiment, dans notre texte, qui court, qui a pris part à la course, et la personne qui chemine, mais en fait qui est en train d'errer spirituellement ou qui tourne en rond, la différence essentielle, c'est l'appel de Dieu. Simon parlait tout à l'heure de la révélation que donne le Saint-Esprit. Question, comment Dieu appelle-t-il des hommes et des femmes à lui? Les chrétiens des églises de Galatie, les chrétiens ou les gens qui sont ici au Blanc-Ménil? Réponse, Dieu appelle par la proclamation de l'Évangile, dans le témoignage des chrétiens, là où ils se trouvent, sur leur lieu de travail, dans leur voisinage, dans le quartier où est installé le bâtiment qui accueille l'église locale. Paul parle d'une bonne nouvelle, l'Évangile. Quelle est cette bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que Jésus a fait pour notre propre justice devant Dieu ce que nous ne pouvions pas faire par nos propres moyens. Nous sommes, chrétiens, Galates et nous-mêmes, appelés par grâce. Par grâce. C'est-à-dire sans qu'interviennent nos mérites personnels. Et c'est déjà ce que Paul disait tout au début de sa lettre. Chapitre 1, verset 6. « Je m'étonne que vous vous détourniez, de nouveau, si vite de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ, pour passer à un autre évangile. Vous avez entendu la bonne nouvelle, la vraie bonne nouvelle. Vous êtes libérés par le Christ. Pourquoi est-ce que vous vous détournez de cet appel de grâce ? Et les faux enseignants disaient, oui, Dieu vous a fait grâce en Jésus-Christ, mais ça ne suffit pas. Si vous ne vous faites pas circoncire, aujourd'hui on dirait, si vous ne prouvez pas d'une manière ou d'une autre à Dieu votre bonne foi, vous ne pouvez pas être sauvé, vous ne pouvez pas être juste devant lui. Et Paul dit, non, non. C'est contraire à l'appel que vous avez reçu de Dieu qui dit « Je vous donne ma faveur, elle est imméritée. » Contradiction avec le discours de ces soi-disant enseignants qui disent « Obéissez à la loi pour montrer à Dieu que vous êtes digne d'être aimé, d'être sauvé. » Cela veut dire pour nous aujourd'hui que tout discours, qu'il vienne d'ailleurs, qu'il vienne même de la part d'autres chrétiens, ou de nos propres pensées, tout discours qui suggère que le sacrifice de Jésus à la croix doit être complété d'une manière ou d'une autre par nos efforts personnels, nos mérites personnels, est en contradiction avec l'appel que Dieu nous adresse. Dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 2, verset 8, Paul dit « C'est par grâce que vous êtes sauvés. Cela ne vient pas de vous. C'est un cadeau de Dieu. » La source de ce faux enseignement est une autre source que celui qui nous appelle à la foi. Quelles sont les conséquences de ce faux enseignement ? Regardez le vocabulaire que Paul utilise dans les quelques versets que nous avons lus. Au verset 7, il dit « Qui vous a arrêté ou détourné de la course ? Vous étiez bien parti. Qui vous a arrêté en chemin ?» Au verset 10, il dit « Celui qui vous trouble » en subira la peine. Celui qui vous trouble. Et au verset 12, il reprend le même terme qu'on pourrait traduire là aussi par trouble ou désordre. Ce qui sème le trouble ou le désordre parmi vous. Essayez d'ajouter nos mérites personnels à la foi en Jésus pour être sauvé. Ça met la pagaille. Ça divise notre foi personnelle, et ça divise l'Église. Et c'est la raison pour laquelle Paul utilise ici l'image du levain, de la levure, verset 9. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Une sorte de proverbe, dicton populaire, que Paul utilisait déjà dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6. Dans 1 Corinthiens, c'était plutôt par rapport au péché, l'image du levain. Ici, le levain représente plutôt la fausse doctrine, l'évangile qui a été tordu. Quand vous mettez de la levure dans votre farine, pour faire du pain par exemple, c'est tout le pain qui gonfle. C'est pas seulement une petite partie, c'est tout le pain qui gonfle. Et bien de la même manière, pour les chrétiens de Galate, les chrétiens galates, se faire circoncire, ou pour nous aujourd'hui, penser qu'en obéissant à telle règle, ce serait un moyen de nous assurer que Dieu nous sauve, qu'on fait partie des justes parce qu'on a fait quelque chose, c'est une croyance qui contamine toute la foi, toute notre manière de penser. Donc vous voyez, c'est pas un petit truc insignifiant en apparence, c'est toute notre vie qui est affectée par cette manière de penser. Et parce que notre désir de nous justifier devant Dieu par nos propres moyens n'est jamais satisfait. Paul en a parlé dans les chapitres précédents comme d'un esclavage. Et c'est de cet esclavage que le Christ est venu nous libérer. Galates chapitre 5, verset 1, encore et toujours. C'est pour la liberté que le Christ nous a libérés. Tenez donc ferme, continuez la course, et ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. Voyez, c'est pas un petit point secondaire de la doctrine. Les erreurs de doctrine qui portent sur les bases de la foi, elles contaminent tout ce qui est construit sur ces bases. Donc toute la foi, qu'elle soit personnelle ou communautaire. Les faux enseignements, lorsqu'ils sont démasqués, doivent être dénoncés par l'Église, parce qu'ils nuisent à la santé spirituelle de toute la communauté. Et Paul a des mots très durs ici, qu'on pourrait trouver choquants. D'ailleurs, ce n'est pas traduit de la même manière dans toutes les Bibles, le verset 12. On trouve souvent cette traduction « qu'ils se séparent » ou « qu'ils soient séparés ce qui vous trouble, qu'ils soient séparés de l'Église ». On peut le traduire comme ça, on peut le traduire d'une autre manière qui me semble encore plus pertinente, mais qui est osée. Hein. C'est comme si Paul disait, ils veulent se couper quelque chose, vous savez ce que c'est la circoncision? On enlève un petit bout de chair du prépuce du sexe masculin. Ils veulent se couper quelque chose pour se faire bien voir par les hommes et par Dieu, eh bien, qu'ils se coupent complètement. C'est ça que Paul dit. Qu'il se castre. C'est pas très théologiquement correct, hein. Mais c'est bien ça. Si Paul dit les choses de manière comme ça un peu crue, qu'on adoucit un petit peu parfois dans nos traductions, c'est parce que l'enjeu est énorme. L'enjeu est vital pour les chrétiens. C'est pas seulement couper un petit bout de chair. C'est un geste symbolique qui est le symbole de toute une manière de penser et donc de vivre la foi. Et il me semble qu'il y a là pour nous un avertissement à veiller les uns sur les autres dans la communauté pour que nous puissions courir ensemble, Simon le disait tout à l'heure, courir ensemble, et Patrick dans sa prière aussi, courir ensemble dans la vérité de la parole. Et là, je vous invite à avoir de temps en temps une pensée, une prière, aussi pour l'équipe pastorale, qui est particulièrement chargée de discerner le vrai, le faux, pour protéger l'Église. Nous devons, les uns et les autres, les uns avec les autres, rester dans la course et ne pas nous laisser détourner de la grâce de Dieu par des discours qui flattent nos mérites personnels. C'est un peu ces stands sur le bord de la piste du sprint que j'indiquais en introduction. C'est ces stands qui détourneraient le sprinteur de son 100 mètres en lui faisant croire qu'il peut améliorer ses compétences, ses qualités pour être sûr de gagner. Le problème, c'est qu'on est disqualifié. Et c'est là le but, c'est le troisième temps, la source du faux enseignement, ses conséquences, son but, c'est de mettre les chrétiens hors course. Et nous n'ignorons pas les projets de notre adversaire, le diable. Si c'était possible de nous faire chuter au point de nous détourner complètement du Christ, il n'hésite pas. Il y a donc là un avertissement important pour nous. L'adversaire essaye de nous troubler, c'est ce que dit Paul au verset 10, au point de faire passer la circoncision pour une partie du salut. Et Paul a déjà averti les Galates, si vous ne vous contentez pas de la croix du Christ pour être sauvés et que vous vouliez y ajouter vos propres œuvres, vous sortez de la course. Vous quittez la foi authentique. Il disait un peu plus tôt au chapitre 5 et au verset 4, vous êtes séparés du Christ. Vous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Et Paul les encourage, restez en course, reprenez la course, revenez au fondement même de votre foi pour pouvoir terminer la course. Et ce sera mon troisième et dernier point. Prendre part à la course, rester dans la course et finir la course. Comme nous l'avons déjà dit plusieurs fois, déjà au cours de cette série de prédications sur Galates, rester dans la course, ce n'est pas une option. Le vrai chrétien reste en course, même s'il n'est pas toujours en ligne droite, hein, mais il va jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce que le chrétien est plus fidèle que les autres hommes ? Tu parles. Pas du tout. Mais parce que Dieu garantit lui-même que ses enfants finissent la course. Vous voyez, Dieu ne nous appelle pas seulement à prendre part à la course, ni même à rester dans la course, mais aussi à finir la course. Celui qui nous appelle à un nouveau départ nous donne aussi les moyens de finir la course. Et c'est ce que Paul dit ici au verset 10. Après avoir dit tout au long de l'épître, « Enfin les gars, réveillez-vous là ! Vous allez mourir spirituellement !» Paul dit, « Moi j'ai confiance en vous dans le Seigneur, je sais que vous ne penserez pas autrement. » Et là, j'aimerais vous rendre attentif à quelque chose. Paul n'a pas confiance dans les Galates. Paul n'a pas confiance dans la foi des Galates. C'est ces trois mots-là qui sont importants. Dans le Seigneur. J'ai confiance en vous dans le Seigneur. C'est-à-dire que c'est parce que Dieu est fidèle que nous persévérons dans la course et que nous finissons la course. Si nous comptons sur nos seuls efforts personnels, nous allons faire comme le sprinter, nous sortons de la course. Si Dieu appelle quelqu'un au salut, cette personne sera sauvée. Dieu est fidèle. Dieu termine ce qu'il commence. Il ne nous abandonne pas en cours de route. Il ne fait pas des promesses au départ pour nous jouer un mauvais tour après. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Sa parole est sûre, solide, c'est un ferme appui pour notre foi. Et pour illustrer son propos, Paul prend l'exemple de son expérience personnelle. Au verset 11. « Quant à moi, mes frères, si je prêchais encore la circoncision, pourquoi serais-je encore persécuté ? La cause de chute, la croix, serait donc réduite à rien ? Pourquoi Paul connaît-il un ministère si difficile ? Pourquoi est-il tout le temps persécuté ? Parce qu'il dit, c'est Jésus et Jésus seul qui vous sauve. C'est la foi et par la foi seule. Par sa grâce et par sa seule grâce. Et ses compatriotes juifs qui passent derrière lui pour dire, oui, c'est ce que Jésus a fait, c'est bien, mais il faut ajouter Moïse pour être sauvé. Eh bien, Paul est persécuté à cause de cela, parce qu'il dit, il n'y a rien à ajouter. Quand on dit aux gens, faites ceci, faites cela, et Dieu vous bénira, et Dieu vous aimera, c'est bon pour votre place au paradis, on ne prêche plus le Christ. Vous voyez, Paul, il dit, si je prêchais encore la circoncision, ben, on ne me persécuterait plus. Je ferais comme tout le monde, comme tous les bons prédicateurs qui disent que faites tel ou tel effort et Dieu va vous sauver. Quand on prêche ça, on prêche ses dadas, on prêche ses idées pour se sauver soi-même par ses bonnes œuvres. Mais si l'on prêche vraiment Jésus-Christ crucifié, alors on est en train de dire aux gens, vous savez, nos combines pour amadouer Dieu et le mettre dans notre poche, ça marche pas. Dieu ne se laisse pas manipuler. Et c'est parce que ça ne peut pas marcher que Dieu s'est donné lui-même pour nous à la croix. La grande raison pour laquelle nos contemporains, aujourd'hui en 2016, ceux qui ont entendu l'évangile et qui refusent de l'accepter, la grande raison pour laquelle nos contemporains refusent cet évangile, c'est justement parce qu'il suffit de l'accepter. Il n'y a rien à faire pour être sauvé, mais simplement comprendre et reconnaître que Dieu l'a fait pour nous, à la croix. Voilà pourquoi Paul est persécuté par ses compatriotes juifs, parce qu'il leur dit que leur circoncision religieuse et culturelle ne les sauve pas. C'est seulement celui qu'ils ont cloué sur une croix qui peut les sauver. Leur Messie, leur Sauveur, celui qu'ils ont pris pour un imposteur alors qu'il était Dieu visitant son peuple. Voyez, cette croix qui est là, discrète, au milieu de cette fresque historique qui représente un petit peu l'histoire de notre humanité, cette croix au centre de l'histoire, elle n'est pas importante seulement parce que on a commencé à compter à l'envers à partir de l'an zéro. La croix est un événement historique décisif parce que devant la croix, tout être humain est face à un choix. Simon en parlait tout à l'heure. Soit on dit oui, soit on dit non. Si on dit non, on s'enferme dans notre propre incapacité, à mériter l'amour de Dieu. Si on dit oui, c'est qu'on renonce à cette prétention. Et on découvre la liberté, la vraie liberté, d'aimer le Dieu qui nous a libérés de cette prétention. Vous voyez, la croix, c'est le message de Dieu adressé à tout être humain. Tu ne peux pas te sauver toi-même, mais moi, je le fais. Je te fais grâce. Est-ce que tu me fais confiance ? Oui ou non ? Et vous qui êtes là ce matin, et qui entendez ou qui réentendez cet appel, quelle est votre réponse ? La plupart des gens autour de nous répondent non à cet appel, parce que ce qui est gratuit est souvent louche. Nous nous méfions de ce que nous ne pouvons pas acheter. On se plaint que la vie est chère et que notre pouvoir d'achat diminue, mais quand même, quand on n'a pas quelque chose à payer, ça nous gêne. Ça gêne notre prétention de maîtriser notre vie, d'être notre propre patron. Et c'est pour ça que l'évangile est un scandale, mot qu'on trouve dans d'autres textes du Nouveau Testament et aussi dans l'Ancien. C'est un scandale parce que l'évangile met l'homme face à son orgueil, face à sa prétention de vivre sans Dieu. Et tout l'édifice que l'homme construit pour être maître de sa vie sans l'intervention d'un Dieu quelconque, tout ça, ça s'écroule avec l'évangile. Quand on comprend que on ne peut pas acheter l'amour de Dieu. Et que la seule chose que nous avons à faire, c'est de le recevoir. Alors, après, ça implique des conséquences pratiques. Entrer dans la course est une chose, mais il faut rester dans la course et finir la course. Mais Voilà quelque chose qui est difficile, qui était difficile pour nous avant que Jésus se révèle à nous. Et quelque chose qui est difficile pour nos amis, nos voisins, les membres, certains membres de nos familles. À la limite, dire oui à un Dieu qui serait à notre service, pourquoi pas ? Mais reconnaître notre état de pécheur et l'impasse de notre propre justice, ça c'est difficile. Et pourtant, une fois sortis de cette impasse, c'est là que nous sommes vraiment libres. La vérité sur nous-mêmes nous rend libres. C'est ce que Jésus dit dans les évangiles. La vérité vous rendra libre. Le Christ et lui seul nous rend libres. Est-ce que nous voulons de sa libération ? Nous allons prier. Seigneur, quelle grâce, quel cadeau immense tu nous fais à la croix. Quelle prétention aussi que la nôtre de vouloir nous justifier nous-mêmes devant toi. Seigneur, viens à notre secours pour prendre ou reprendre part à la course. Pour rester dans la course et pour finir la course. Aide-nous à compter sur toi cette semaine, Jésus, et sur toi seul. Amen.